tous, Claire Morin-Gibault avec vous. Bienvenue dans Le Monde Aujourd'hui, au sommaire ce soir. En Afrique du Sud, la première session de l'Assemblée nationale pour élire le prochain président se tiendra vendredi. Les tractations pour former un gouvernement d'union se poursuivent. En Somalie, au moins 55 morts et 155 blessés lors d'un affrontement entre deux clans dans le centre du pays. Après l'Égypte, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est arrivé en Israël pour pousser un accord sur une trêve à Gaza. Élection européenne avec une poussée de l'extrême droite. En France, le président Emmanuel Macron convoque des législatives anticipées à la fin de ce mois. Également, dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports. Mais d'abord, le journal. Au moins 55 personnes sont mortes et 155 autres ont été blessées lors d'un affrontement au cours du week-end entre deux clans dans le centre de la Somalie. Les combats se sont calmés après l'arrivée des soldats du gouvernement fédéral. Alexandrine Holognon.
Les combats entre les clans Dir et Marien ont éclaté samedi dans les villes d'Aboudouak et de Héralé, dans la région de Galmoudoug, au sujet des pâturages et des points d'eau. La situation est devenue incontrôlable et s'est répandue comme une traînée de poudre, a déclaré Faranour, un ancien du clan et un habitant de Héralé. Les combats se sont calmés après l'arrivée des soldats du gouvernement fédéral. Le bilan fait état de 55 morts dans les deux camps. Les autorités de Galmoudoug n'ont pas encore réagi à l'incident. Le gouvernement fédéral somalien s'efforce non seulement de contenir la violence déclenchée par le groupe Al-Shabaab, mais est aussi confronté à des affrontements claniques pour le contrôle des terres et de l'accès à l'eau.
Un avion militaire qui transportait le vice-président du Malawi, Solaos Chilima, est porté disparu après que l'appareil a échoué à effectuer un atterrissage ce matin, a annoncé le gouvernement. L'avion qui a décollé peu après 9 heures transportait le vice-président âgé de 51 ans et 9 autres personnes. Le président Lazarus Chakwera a demandé aux forces régionales et nationales de mener des recherches immédiates pour localiser l'appareil. Dans l'est de la République démocratique du Congo, le bilan des attaques menées vendredi par des rebelles islamistes présumés contre des villages s'est alourdi à 41 morts, a déclaré un porte-parole de l'armée congolaise. L'attaque contre les villages de Massala, Mapasana et Maïni a été menée par des membres des ADF, les forces démocratiques alliées, a déclaré le lieutenant-colonel Mac Azukai, porte-parole de l'armée dans la province congolaise du Nord Kivu. En Afrique du Sud, les 400 députés élus aux législatives le 29 mai se réunissent vendredi au Cap lors d'une première session à l'Assemblée nationale pour élire le prochain président du pays. L'ANC au pouvoir ne dispose cependant que de 159 sièges de députés contre 230 dans le Parlement sortant. Plus de précisions avec Jean-Roger Bion.
Depuis l'annonce des résultats définitifs le 2 juin, d'intenses tractations ont été menées entre partis sur la formation du prochain gouvernement. La proposition du président Cyril Ramaphosa d'un gouvernement d'union nationale a été accueillie froidement par plusieurs partis. Le parti combattant pour la liberté économique a rejeté l'idée de s'associer à des rivaux tels que l'Alliance démocratique, invoquant des opinions politiques radicalement opposées. Le DA a obtenu 87 sièges sur la base d'un programme libéral, tandis que les radicaux de gauche de l'EFF ont décroché 39 sièges en soutenant des réformes radicales comme la redistribution des terres aux Noirs et la nationalisation des secteurs économiques clés. Le parti de l'ex-président Jacob Zuma, Mkonto Wesizwe, MK, est devenu la troisième force du pays avec 58 sièges. L'Afrique du Sud a tenu fin mai le scrutin le plus disputé depuis l'avènement de la démocratie dans le pays. Le Congrès national africain au pouvoir depuis la fin de l'apartheid a obtenu seulement 40% des voix, passant pour la première fois sous la barre des 50% lors d'élections nationales.
Au Nigeria, au moins 50 personnes ont été tuées lorsque des hommes armés ont attaqué le village de Yargogé dans le nord-ouest du pays. Au cours du week-end, ont déclaré des habitants aujourd'hui. Un nombre encore indéterminé de personnes ont été enlevées, dont des femmes et des enfants. Au Mali, la grève des banques, très suivie à l'approche de la fête musulmane de la Tabaski, a pris fin aujourd'hui après la libération d'un responsable syndical arrêté il y a 5 jours, a indiqué le syndicat national des banques. Rendez-vous en seconde partie de cette édition pour un reportage de notre correspondant sur place. En Guinée, la défense de Moussa Dadis Camara a plaidé son acquittement au procès du massacre de 2009, assurant qu'il était étranger au bain de sang et avait tout fait pour l'empêcher. Le capitaine Dadis n'a rien à voir avec la commission des infractions commises au stade du 28 septembre, a déclaré maître Al-Mami Samori Traoré devant la cour qui juge son client et 11 autres responsables depuis 2022. Ils sont accusés entre autres d'assassinat, de torture, viol, enlèvement et pillage commis en masse le 28 septembre 2009 et les jours suivants.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est arrivé en Israël pour pousser à un accord sur une trêve à Gaza. Peu avant, au Caire, première étape de sa nouvelle tournée au Proche-Orient, il a appelé les pays de la région à faire pression sur le Hamas pour qu'il accepte un cessez-le-feu. Nous faisons le point avec Nanit Talani.
Après une étape au Caire et une rencontre avec le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi, M. Blinken doit rencontrer à Jérusalem le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Au Caire, le chef de la diplomatie américaine a appelé les pays de la région à faire pression sur le Hamas pour qu'il accepte un cessez-le-feu. Je crois fermement que l'écrasante majorité des Israéliens et des Palestiniens veulent croire à un avenir dans lequel les deux peuples vivraient en paix et en sécurité, a affirmé M. Blinken. Cette 8e visite dans la région du secrétaire d'État depuis le début de la guerre entre le Hamas et Israël vise à faire avancer la proposition de trêve annoncée par Joe Biden, qui s'est heurtée depuis aux exigences contradictoires des deux camps. À New York, le Conseil de sécurité de l'ONU doit voter ce lundi sur un projet de résolution américaine soutenant une proposition de trêve dans le territoire palestinien. Ce texte appelle Israël et le mouvement islamiste palestinien à appliquer sans délai et sans condition un plan annoncé le 31 mai par le président américain Joe Biden et alors présenté comme émanant d'Israël.
Les élections européennes, marquées par une poussée de l'extrême droite dans plusieurs pays, ont provoqué hier soir un séisme politique en France, sans pour autant bouleverser les grands équilibres à Bruxelles. Jacques Aristide.
Les premières estimations confirment une progression des droites nationalistes et radicales et un revers cuisant pour les dirigeants des deux premières puissances de l'Union européenne, le chancelier allemand Olaf Scholz et le chef de l'État français Emmanuel Macron, qui a dissous l'Assemblée nationale française. Le scrutin, où plus de 360 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes pour désigner 720 eurodéputés, s'est déroulé depuis jeudi dernier dans un climat alourdi par une conjoncture économique morose et la guerre en Ukraine. Selon des projections publiées dans la nuit de dimanche à lundi, les droites nationalistes et radicales doivent augmenter leur nombre de sièges de 118 à 131 au Parlement européen, alors que la grande coalition de la droite, des sociaux-démocrates et des centristes, au sein de laquelle se forgent traditionnellement les compromis, va conserver une majorité de 404 sièges.
Et au lendemain de ces élections, des syndicats étudiants ont appelé à un rassemblement contre l'extrême droite ce soir à Paris. D'autres rassemblements sont prévus dans des grandes villes de France comme Marseille ou Lille. Le syndicat CGT a appelé aussi le monde du travail à se syndiquer, à s'organiser et à participer à toutes les initiatives de mobilisation contre l'extrême droite et contre la politique d'Emmanuel Macron, en commençant par l'appel des organisations de jeunesse à se rassembler donc dès ce lundi soir. La Russie a revendiqué ce lundi de nouvelles avancées sur le front à quelques jours de deux sommets cruciaux pour l'Ukraine, dont les forces sont affaiblies faute de recrues et de livraisons suffisantes de matériel. Les Occidentaux doivent participer cette semaine à un G7 devant déboucher sur un accord concernant l'utilisation des actifs russes violés afin d'aider l'Ukraine, ainsi qu'à une conférence sur la paix en Suisse où seront représentés des dizaines de pays, mais pas la Russie. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'essentiel de l'actualité économique en Afrique, c'est la Minute Éco avec Nanit Salami.
La société chinoise Gafeng Lithium va créer une entreprise de spodumène au Mali qui démarrera sa production d'ici la fin de l'année. Gafeng vient d'acheter 40% des parts de l'Australien Leo Lithium dans la mine de Goulamina pour 342,7 millions de dollars. Pour Leo Lithium, cette vente était dans le meilleur intérêt de ses actionnaires vu les risques liés aux opérations au Mali et l'impact du nouveau code minier. Adopté en 2023, ce code permet à Bamako d'accroître sa participation dans les projets miniers et de récupérer un manque à gagner dans les revenus de production. Le FMI maintient sa prévision de croissance de l'économie du Nigeria à 3,3% pour 2024 contre 2,9% l'année dernière. L'institution cite une reprise dans les secteurs des services et du commerce. Pour terminer, les prix du pétrole ont légèrement augmenté ce lundi, soutenus par les espoirs d'une hausse de la demande de carburant cet été. Les contrats à terme sur le pétrole Brent ont gagné 16 cents, soit 0,2%, pour se fixer à 79,78 dollars le baril. Les contrats à terme sur le brut américain West Texas Intermediate étaient en hausse de 6 cents pour s'établir à 75,59 $. Le Brent pourrait atteindre 86 $ le baril au cours du troisième trimestre, car la forte demande estivale en matière de transport entraînera un déficit du marché pétrolier de 1,3 million de barils par jour pendant cette période.
Et maintenant, la page sport présentée ce soir par Eric Manirakiza. Bonsoir Eric.
Bonsoir Claire.
Le grand derby du championnat nigérian interrompu après un pénalty polémique.
Un derby phare du championnat du Nigeria de football a été interrompu dimanche après que l'équipe locale de Enugu Rangers a bénéficié d'un pénalty que les visiteurs d'Enyimba ont contesté au point de quitter le terrain. Le derby de l'Orient entre les deux équipes de tête du championnat avait attiré la grande foule au stade de la ville d'Enugu dans le sud-est du pays. Mais quand les Rangers ont bénéficié d'un pénalty dans le temps additionnel, alors que le score était de 0 partout, les joueurs d'Enyimba ont immédiatement quitté le terrain en signe de protestation. Plusieurs centaines de spectateurs ont alors envahi la pelouse et le match a été arrêté. Une victoire aurait permis aux Rangers de prendre 5 points d'avance sur Enyimba, le champion en titre, à 2 journées de la fin.
Le Real de Madrid participera bien au Mondial des clubs.
Le club madrilène a assuré ce lundi qu'il sera bel et bien présent à la Coupe du Monde des clubs de la FIFA. Des déclarations de son entraîneur Carlo Ancelotti ayant été, selon ce dernier, mal interprétées. La possibilité de disputer un tel tournoi est l'occasion de continuer à se battre pour de grands trophées avec le Real Madrid, assure le technicien italien dans un court message publié sur le réseau social X. La première édition du Mondial des clubs de la FIFA, qui doit rassembler 32 des meilleures équipes du monde, doit se tenir du 15 juin au 13 juillet 2025 aux États-Unis. Mais cette compétition suscite des critiques depuis plusieurs mois à cause de l'augmentation de la charge de travail des joueurs et des risques sur leur santé. En mai, l'Association mondiale des joueurs de football et la FIFPro, syndicat mondial des joueurs, ont sommé l'instance internationale de revoir le calendrier de la compétition sous peine de faire face à une procédure judiciaire. Elles soutiennent que le calendrier des compétitions de football est désormais au-delà de la saturation.
3 supporters condamnés à 8 mois de prison pour insultes racistes envers Vinicius le 21 mai 2023.
Une première en Espagne, selon les instances du football. L'affaire avait provoqué une vague d'indignation internationale inédite. C'était lors d'un match de Liga entre le Real Madrid et le Valence FC. au stade Mestalla de Valence. Ces supporters de Valence ont été condamnés dans le cadre d'une procédure de plaidé coupable pour atteinte à l'intégrité morale aggravée par une discrimination.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Claire Morin-Gibourg toujours avec vous. Place au dossier du jour. Au Mali, depuis plusieurs jours, banques et stations de Bamako avaient fermé boutique pour protester contre l'arrestation du secrétaire général du syndicat national des banques et établissements financiers, Amadou Nba. S'il a été libéré à la mi-journée, entraînant la levée du mot d'ordre d'arrêt de travail, cette grève a eu des conséquences sur les usagers qui ne décolèrent pas. Reportage à Bamako de notre correspondant Mohamed Danioko.
Au siège du syndicat national des banques et établissements financiers, le temps semble avoir suspendu son vol depuis l'arrestation de son secrétaire général Amadou Nba, également premier vice-président de l'Union nationale des travailleurs du Mali, la plus importante centrale syndicale du pays. Arrêté suite à la plainte d'un autre syndicaliste, sa libération était impatiemment attendue par chacun ici. Adama Sidibé, secrétaire à l'information du CINABEF.
Grâce à, vraiment au bureau exécutif, nous remercions l'ensemble de nos militants et militantes vraiment qui nous a accompagnés de cette lettre d'arrêt de travail pendant ces quelques jours-là. Et aujourd'hui, nous remercions le bon Dieu puisque nous sommes avec notre camarade Amadou Nba aujourd'hui.
Stations et banques fermées, des citoyens qui sont obligés de prendre leur mal en patience. Voici le décor de la ville depuis le mercredi dernier. Cette mise sous mandat de dépôt de Amadou a déclenché une grève de plusieurs banques et stations d'essence avec des conséquences que les usagers peinent à digérer. Ibrahim Azier Koulibaly, client.
Ce que les syndicats des banques et établissements financiers sont en train de faire, ça c'est une prise d'otage de tout un peuple. Je le dénonce. Je pense que ce n'est pas la manière. Aujourd'hui, et regarde les stations et autres. Heureusement qu'il y a des privés qui travaillent, qui font qu'on peut aller baguer à nos courses et autres. Sinon, ça aurait ne pas être le cas. Le pays sera pratiquement immobilisé. Ça, ce n'est pas normal. Et puis encore, on a nos salaires là-bas. On a nos salaires là-bas. Nous aussi, on peut déposer plainte contre eux.
Autant de facteurs qui révoltent davantage les clients contre le CINABEF, estimant qu'ils sont victimes de querelles personnelles. Alassane Cissé, journaliste.
Ça a posé beaucoup de désagréments parce que il y a des gens qui ont leur argent dans les banques et on est à l'approche de la fête. Il faut voir seulement. Hier, moi, j'ai failli même emprunter de l'argent pour pouvoir faire mes quelques achats. C'était pas aisé. Il y a beaucoup de gens, imaginons des gens qui sont à l'hôpital. S'il faut aller prendre de l'argent pour payer des médicaments, c'est un problème. Les chefs de famille, ça a causé beaucoup de désagréments.
À la mi-journée, la nouvelle de sa libération a fait le tour des réseaux sociaux, suivi d'un communiqué de son syndicat levant le mot d'ordre d'arrêt de travail. La course aux opérations bancaires à partir de demain mardi risque de se prolonger jusqu'à la fête de Tabaski prévue pour le 17 juin prochain. Mohamed Danioko pour VOA Afrique, Bamako.
VOA Afrique, 24 heures sur 24 à Bamako, au Mali, sur 102 FM. Dans l'état du Darfour Nord au Soudan, les personnes déplacées et les médecins affirment que les forces de soutien rapide attaquent les hôpitaux et les camps à El Fasher, capitale de l'état. Des ONG affirment que le monde ne prête guère attention à la destruction d'une ville censée être un refuge pour les personnes chassées de chez elles par la guerre au Soudan. Un reportage de Henry Wilkins, le récit est de Rosine Munezero.
El Fasher, la capitale de l'état du Nord Darfour, était censée être sûre. Environ 800 000 personnes déplacées par les combats et l'épuration ethnique présumées dans la campagne environnante du Darfour ont fui ici dans l'espoir de trouver un refuge. Mais depuis la mi-avril, El Fasher est également devenue une zone de guerre. Les camps de réfugiés ont été pris entre deux feux et même bombardé, alors que l'armée soudanaise affronte les forces de soutien rapide pour le contrôle de la ville. Plus de 12 000 personnes ont été tuées, selon Médecins sans frontières. Depuis El Fasher, Adam Royal, porte-parole d'une organisation locale qui aide les déplacés au Darfour, a déclaré à la VOA que les personnes ne se soucient pas des belligérants, mais veulent simplement que les combats cessent.
Ils ne sont pas des patriotes, car ils se battent pour leurs propres intérêts. Le seul perdant est la société soudanaise, en particulier les habitants du Darfour. Les gens ont tout perdu, même les besoins fondamentaux de la vie humaine, comme la nourriture, l'eau, les abris et les médicaments. Les mots ne suffisent pas à décrire la gravité de la situation.
Claire Nicolette travaille pour Médecins sans frontières qui gère des installations médicales à El Fasher. Selon elle, l'une des maternités a été bombardée ainsi que l'hôpital principal.
Le toit s'est effondré sur les bébés qui étaient à l'intérieur de l'hôpital et nous avons dû fermer après la mort de deux enfants. L'hôpital, je peux le dire, qui reçoit tous les blessés en ce moment, a été touché 4 fois en 10 jours.
Et piller ses équipements, dont une ambulance, a dénoncé l'ONG sur son compte X dimanche soir. Claire Nicolette de Médecins sans frontières a déploré que les appels de l'ONU, du secrétaire d'État américain Anthony Blinken et d'autres membres de la communauté internationale pour mettre fin au combat sont restés lettres mortes et que la situation ne fait qu'empirer et la violence est aveugle.
Nous entendons parler de drones maintenant, on entend parler de snipers, donc on voit que la situation ne cesse de se détériorer. C'est une sorte de guerre totale à l'intérieur de la ville, malheureusement. Il n'y a aucune protection des civils, aucune protection des structures de santé. C'est ça la réalité.
Adam Royal, porte-parole des personnes déplacées et des réfugiés du Darfour, explique que les combats ont empêché les gens de quitter la ville et les groupes d'aide de livrer de la nourriture aux personnes affamées à l'intérieur de la ville.
En réalité, la plupart des familles vivent dans des conditions désastreuses, moi y compris, parce que nous ne recevons pas notre part de l'aide du programme alimentaire mondial en raison de mauvaises conditions de sécurité et du blocus.
Chaque jour, il envoie désespérément des photos d'enfants mal nourris à la presse pour tenter d'attirer l'attention du monde. Les ONG se plaignent de la faiblesse des dons et du peu d'intérêt pour la crise soudanaise, en partie à cause des guerres en Ukraine et à Gaza, tandis que les groupes de défense des droits de l'homme critiquent l'ONU et l'Union africaine de ne pas en faire assez.
En France, une onde de choc a traversé l'opinion et le monde de la politique après la victoire de l'extrême droite aux législatives européennes. Les politiques s'accordent à reconnaître que c'est l'élection qui aura les conséquences les plus lourdes pour la France, pour les Français et l'histoire de la Ve République. Jean-Roger Bion a joint le directeur de recherche à l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, Federico Santopino.
C'est avant tout un vote de protestation vis-à-vis des pouvoirs en place, surtout en France, mais également dans d'autres pays comme la Belgique et l'Allemagne. Et ça, ça paraît assez clair. Je pense également qu'il y a aussi un rejet de celle qui est perçue comme une politique migratoire qui serait favorisée par l'Union européenne, mais qui en réalité ne l'est pas, pour être sincère. Mais en tout cas, ainsi elle était présentée aux électeurs. Et je pense que c'est surtout également, pour ce qui concerne le cas plus spécifique de la France, un rejet vis-à-vis d'Emmanuel Macron, qui est un président très contesté depuis maintenant pas mal d'années.
Le chef de l'État français a profité de la défaite de son camp lors de cette élection pour dissoudre l'Assemblée nationale, alors qu'il défend une décision en toute conscience. Est-ce que ce n'est pas un pari risqué?
Oui, il y a beaucoup d'inquiétudes en France par rapport à cette dissolution de l'Assemblée nationale, parce que désormais, il n'est pas impossible d'imaginer que le Rassemblement national ait la majorité. Je vous rappelle que lors des élections législatives qui se tiendront, si je ne me trompe pas, le 30 juin, donc très proche, et le 6 juillet pour le deuxième tour, c'est des élections qui se tiennent en 2 tours. Et donc, dans le cadre d'un deuxième tour, à la majorité, le Rassemblement national, donc l'extrême droite, pourrait avoir la majorité absolue au Parlement et donc devrait former un gouvernement de cohabitation avec Emmanuel Macron. Et ça, c'est un scénario catastrophe qui est effectivement perçu comme étant extrêmement dangereux. Ceci dit, je pense que Macron a décidé de mettre l'extrême droite devant ses responsabilités, étant donné que depuis quelque temps elle gagne pas mal dans les élections locales ou européennes. Il s'est dit, maintenant il faut que vous montriez ce que vous savez faire si vous voulez vraiment être un parti de gouvernement. Il veut un peu les mettre à l'épreuve et sans doute aussi, par ailleurs, les mettre en difficulté.
Alors, quelles seraient les éventuelles conséquences sur les relations entre la France et l'Afrique si, d'aventure, l'extrême droite remportait cette élection à venir?
Je pense qu'il n'y aurait pas forcément un impact immédiat sur les relations entre la France et les pays africains. Par contre, avec l'extrême droite au pouvoir, les politiques migratoires seraient beaucoup plus strictes en France, et ça, à terme, pourrait peut-être créer des frictions avec certains pays africains. Mais dans les relations diplomatiques entre la France et les pays africains, je ne pense pas que les choses vont forcément évoluer, car l'objectif de l'extrême droite est surtout de limiter au maximum l'immigration et de fermer substantiellement les portes à l'immigration, qu'elle soit d'Afrique ou d'ailleurs.
C'était Federico Santopino, directeur de recherche à l'IRIS en France. Le nombre d'adultes aux États-Unis qui s'identifient avec un genre autre qu'hétérosexuel se maintient à environ 7,2% et les deux candidats à la présidentielle en prennent note. Caroline Presutti, correspondante de la VOA Washington, nous explique comment ils tentent d'attirer cette tranche de la population. Récit Jacques Aristide.
Un sondage de Gallup indique qu'un peu plus de 7% des adultes américains sont lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres ou remettent en question leur sexualité, ce qu'on appelle LGBTQ. Cette communauté avait protesté contre une annonce faite sur Twitter en 2017 par le président de l'époque, Donald Trump, interdisant aux personnes transgenres de servir dans l'armée. Moins d'une semaine après son arrivée à la Maison-Blanche, le président Joe Biden a annulé cette interdiction.
Le personnel transgenre, s'il est qualifié dans d'autres domaines, peut servir dans l'armée américaine.
Sarah Kate Ellis est présidente et directrice générale de GLAAD, une organisation de défense des droits LGBTQ.
C'est un véritable soulagement d'avoir une administration qui comprend qui nous sommes et qui nous valorise en tant que citoyens américains.
Également au cours de son mandat, le président Biden a signé la loi sur le respect du mariage qui accorde des droits et des avantages fédéraux aux couples de même sexe. Voici ce qu'il a dit à la communauté LGBTQ lors d'un événement à la Maison-Blanche.
You are loved.
Vous êtes aimé, vous êtes entendu, vous êtes compris et vous avez votre place.
Randy Bravo dit qu'il votera pour Biden.
En tant qu'homosexuel, vous savez, beaucoup de mes droits peuvent être menacés par les autres partis. Donc, une partie de la raison pour laquelle je soutiens Biden, comme je l'ai fait pour son premier mandat, est par rapport à ce qu'il représente.
L'ancien président Donald Trump a été le premier président à nommer un membre de cabinet ouvertement gay, mais il a adopté une position globalement plus conservatrice. Il a dit « Dieu a créé deux genres, hommes et femmes ».
Que se passe-t-il avec les pronoms? Si vous l'étudiez vraiment et le regardez de près, c'est dément, c'est dingue. Je protégerai ce qui est pro-Dieu. Nous allons protéger ce qui est pro-Dieu.
C'est une rhétorique que soutiennent ses électeurs, comme Thomas Isbell, présent à un rassemblement de Trump dans l'Ohio.
Le camp républicain s'aligne davantage sur ce que dit la Bible en termes d'interdiction de l'avortement, en termes d'élimination de LGBTQ.
Le président Biden a condamné les lois des États conservateurs restreignant la chirurgie de conversion de genre et les cours sur l'orientation sexuelle. L'ancien président Trump a fait des promesses à ce propos sur son site de campagne.
Dès le premier jour, je révoquerai les politiques cruelles de Joe Biden sur les soi-disant soins d'affirmation du genre. C'est ridicule. Un processus qui consiste à administrer aux enfants des bloqueurs de puberté, à modifier leur apparence physique et finalement à opérer des mineurs.
La population LGBTQ a aidé Biden à remporter les États clés en 2020. Un sondage de GLAAD montre le même fort soutien de cette tranche à Biden. En revanche, les électeurs de cette communauté réclament au Parti républicain de se focaliser sur l'économie plutôt que de restreindre leurs droits.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Au micro, Claire Morin-Gibourg. Ainsi va le monde aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente soirée.